C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, on est lundi et on vous fait un débrief des dernières actus social media. Et pour m'accompagner, mon compère Adjane Chellil.
Salut Camille, comment ça va? Salut à tout le monde. Si vous nous écoutez en podcast, sachez qu'on est aussi sur Twitch tous les matins à 9h. Donc n'hésitez pas à venir voir nos têtes. Par exemple, ce matin, vous auriez su que Camille est dans les studios depuis 15 secondes et qu'il est 9h22. Au lieu de 9h, et vous auriez une belle FAQ en live.
Gréviste involontaire, voilà. Je soutiens le mouvement à ma manière.
Et oui, c'est pas grave, Camille, on s'en est sorti. Thibaut est venu m'accompagner. On a fait une belle FAQ exclusive pour Twitch. Hein, donc,
des
pour
fois, il faut un peu d'innovation. Hein.
Bah, c'est surtout, j'ai envie de dire, à ceux qui nous écoutent en podcast, sachez que voilà, il y a des petites exclusivités, des petites choses qui se passent sur Twitch en plus du podcast. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à venir quand vous êtes dispo à 9h à boire le café avec nous en direct. C'est de 9h à 9h30 environ sur Twitch, donc c'est agréable. Écoute, on va peut-être attaquer quand même.
Ouais, parce que là, il va être bientôt 10h30.
Donc, donc, je vais commencer avec... parce que j'ai 3 news ce matin, d'accord.
Oh, ok, ok. Ah ouais, vas-y, balance.
C'est un super délit chaotique, mais j'ai 3 news quand même. Mais j'ai 3 news quand même.
Je t'en
avec
prie.
Une première news, qui moi me réjouit, puisque Camille, peut-être que tu as entendu parler, mais les enfants influenceurs, ça devrait bientôt être fini.
Ah,
eh oui.
J'ai entendu parler de l'histoire.
Parfois, certains enfants sont même pas concernés par leurs parents qui leur créent, ils sont même pas encore nés même parfois, que leurs parents leur créent un compte Instagram. Hein. Souvent on suit la grossesse de la maman et puis la préparation de l'arrivée du bébé avec la chambre du bébé, etc. Mais ça s'arrête pas là puisqu'après, dès les premiers jours de vie, des photos de cet enfant apparaissent sur le compte Insta des parents. Et oui, on le sait, le business des mamans et papas influenceurs, ça fonctionne plutôt très très bien. Sauf que les enfants en question n'ont jamais choisi d'être exposés sur les réseaux, donc ça pose quand même un petit peu une question de normes qu'on a envie de donner à ça. Est-ce qu'on peut avoir un droit d'image total sur ces enfants et le diffuser sur les réseaux? Une première loi avait été votée en 2020 pour tempérer les parents qui étaient un petit peu trop connectés, et ce 6 mars 2023, l'Assemblée nationale a voté une nouvelle loi pour responsabiliser les parents. Le texte doit maintenant être examiné au Sénat. Concrètement, ça devrait changer pas mal de choses, puisque déjà les parents ne pourraient plus a priori exposer leurs enfants publiquement ou exploiter leur image sans impunité. Donc ça veut dire que premièrement, dans la loi, il faut que les deux parents soient en accord pour publier ou diffuser du contenu avec l'enfant sur internet. Okay. C'est-à-dire que si par exemple, moi je pense à des cas de parents divorcés, si l'un des deux n'est pas d'accord, ça prévalera sur le parent qui lui veut poster des photos de son gosse sur internet. Il y a aussi quelque chose qui a été rajouté à la loi. Dans les cas les plus graves, le droit à l'image de l'enfant peut même être confié à un tiers, donc à l'État, et peut être confisqué aux parents. Ça, c'est une notion de délégation forcée de l'autorité parentale. Okay. Donc, ça voudrait dire que si on estime que tu abuses de... Tu vois, si l'État estime que tu exploites, que tu abuses avec l'image de ton enfant, que tu gagnes de l'argent avec, etc., etc., eh bien, l'État peut, par un juge, t'enlever ce droit à l'image de ton enfant pour le récupérer, protéger l'enfant. Y a des chiffres qui sont ahurissants, qui sont sortis. Un enfant apparaît en moyenne, apparemment, sur 1300 photographies publiées en ligne avant ses 13 ans. Tu imagines, ouais. En France, 1300 photos de toi quand t'es enfant avant tes 13 ans. Et en plus, nombre de ces photos, et c'est là où il y a besoin de protéger surtout l'image des enfants, c'est que nombre de ces photos sont aussi échangées ensuite parce qu'elles sont téléchargées des réseaux sociaux classiques et elles sont ensuite échangées malheureusement sur des forums pédopornographiques.
Ouais,
et c'est ça qui pose surtout gravement problème. Ensuite, il y a certaines images des enfants qui peuvent ressortir aussi parfois quelques années plus tard et qui peuvent donner lieu à du cyberharcèlement ou compromettre par exemple la crédibilité d'un jeune qui veut faire une candidature scolaire ou professionnelle et qui se retrouve avec des photos de lui petit qui avaient été postées par ses parents sur les réseaux sociaux. En tout cas, voilà. Le but, c'est de protéger les enfants au maximum et puis d'encadrer les pratiques des créateurs de contenu. Dans une étude canadienne, on comprend que les enfants d'influenceurs seraient à 74% les personnages principaux des contenus des influenceurs et 75% d'entre eux avant même leurs 5 ans, ce qui est quand même grave puisque ça devient la figure principale du compte Instagram. Dans l'étude, 60% de ces influenceurs admettent en plus ne pas respecter les temps de repos, de devoirs et de loisirs de leurs enfants. 60% reconnaissent produire du contenu sans le consentement de l'enfant. Et enfin, 36% utilisent les revenus générés grâce à l'image de leur enfant pour eux-mêmes. Donc, c'est quand même assez gravissime ce qui se passe autour de tout ça. À mon avis, il est temps d'encadrer un petit peu plus ces pratiques et protéger les enfants des réseaux sociaux. On parle souvent d'ailleurs des problématiques qui existent, des jeunes adolescents qui se font un compte Instagram à 13 ans, etc. et comment on peut encadrer ça. Mais peut-être que dans un premier temps, il faudrait surtout commencer par encadrer les pratiques des parents et éduquer les parents vis-à-vis de l'image et d'Internet, vis-à-vis du fait que quand on poste une image sur Instagram, elle ne nous appartient plus complètement, surtout quand on est en compte public. Donc, protéger vos enfants, je pense que ça peut être utile en tout cas. Et moi, je suis très content qu'on commence à encadrer ces pratiques-là qui devraient amener plus de sérénité en plus autour de ces questions.
Carrément. Pauvres enfants.
Eh oui, les pauvres gamins.
Bon, la loi arrive. Moi, je vais te parler de Facebook.
Alors,
du coup, on va discuter un peu plus de à partir de l'adolescence. C'est un des grands dilemmes de Facebook, hein, conserver ses utilisateurs tout en s'adressant à tout le monde. Un des problèmes de Facebook, c'est que les plus jeunes fuient l'application au bénéfice souvent de Messenger. En 2014, pour rappel, Facebook sépare ses deux produits. Facebook devient Facebook et Messenger devient Messenger à part, en application séparée. Et pour rappel, l'intuition de Mark Zuckerberg à l'époque, c'était « la messagerie devient de plus en plus importante. Sur mobile, chaque application ne peut se concentrer que sur une seule chose ». C'était intelligent à l'époque, hein. T'avais l'arrivée de WhatsApp, etc. Et tu séparais en deux pour faire potentiellement deux fois plus de profit et d'abonnés. L'histoire va toucher enfin à sa fin, puisque la semaine dernière, Meta a officiellement annoncé que les deux applications allaient de nouveau être réunies. On en parle depuis décembre, il y a eu des captures d'écran qui étaient passées, etc. L'une des raisons évoquées, hein, sur Instagram, les gens partagent déjà les Reels près d'un milliard de fois par jour par le biais de messages privés, et sur Facebook, on constate que le partage privé des Reels est également en forte croissance. Pour moi, c'est un peu la fausse excuse, pour la bonne excuse en tout cas, pour reséparer, pour réunir en se disant, il y a du vrai conversationnel et de l'échange qui se fait à l'intérieur. Côté mise à jour, on n'avait pas de nouvelles depuis décembre. On ne sait toujours pas quand est-ce que ça va avoir lieu. Ah. Par contre, les tests d'intégration sont en cours. Donc, on verra peut-être bientôt apparaître le petit bouton Messenger dans l'application Facebook.
C'est vrai que sur Instagram, on a vu tout le conversationnel se déporter vers les messages privés. Et donc là, je pense que Facebook se dit effectivement qu'en ramenant Messenger dans sa plateforme, ça permettrait de garder le conversationnel à l'intérieur de Facebook, même si c'est dans une partie privée, quoi.
Puis éviter d'avoir un saut où tu t'as de la perte, en fait.
Exactement, t'as raison. Moi, je vais vous parler de Discord rapidement, de l'IA sur Discord. Plus de 250 millions d'utilisateurs fréquentent Discord chaque mois. C'est quand même énorme. Et aujourd'hui, l'application introduit de plus en plus d'intelligence artificielle. D'après la plateforme, 30 millions d'utilisateurs déjà aujourd'hui utilisent de l'intelligence artificielle sur l'application Discord. Alors, on a différents, il y a différents modes. Il y a trois fonctionnalités qui ont été ajoutées sur Discord. Il y a un chat sur le modèle un petit peu de chat GPT qui a été introduit dans les salons de Discord. Et en fait, tout simplement, ce chat, il peut répondre à des questions de manière individuelle. Vous pouvez lui poser des questions et vous avez ce chat dans le salon de discussion pour lui dire « excuse-moi ». Je sais pas, par exemple, tu pourrais lui demander, excuse-moi, qu'est-ce que Camille a raconté le 22 décembre 99 dans ce chat? Et lui, hop, il regarde et il va te sortir, Camille nous a dit que...
C'est vraiment le robot à ton service, quoi.
C'est exactement ça. Et puis, il y a une autre intelligence, donc il y a cette partie-là. Et puis après, tu peux lui poser aussi des questions, dans ces salons de discussion, comme ChatGPT, pour avoir de l'information juste globale, etc. Tu vois, pour lui dire, est-ce que tu peux me rédiger quelque chose, ou etc., etc. Et puis... il y a une autre forme qui s'appelle Automode, qui est une autre intelligence artificielle qui permet de la modération automatique des messages indésirables à l'intérieur des conversations, de ces salons de discussion. Donc tout simplement, tout ce qui est insulte, etc., ça va tout de suite le dégager en direct. Et puis, on peut lui appliquer des règles de modération propres à chaque serveur. C'est-à-dire que toi, tu peux programmer ton IA pour dire, par exemple, à chaque fois que quelqu'un parle de ce sujet-là, si tu es administrateur du salon de discussion, je veux pas qu'on parle de ce sujet-là dans ce salon de discussion, donc dès que tu repères un message sur ces sujets-là, j'aimerais que tu l'effaces. Ou alors, tu peux lui dire aussi, comme règle de modération, j'ai régulièrement tel type de questions et tel type de questions. J'aimerais que tu puisses répondre tel type de réponse et tel type de réponse en face.
En gros, c'est une IA au service du bot, quoi.
Exactement. Et sauf que Parce que nous, on connaît ces règles de modération-là, ouais. Par exemple, avec les plateformes qu'on utilise, applications tierces comme Agora Pulse ou Tweet, etc., avec des règles de modération, des messages préenregistrés. Mais là, l'automode va pouvoir personnaliser la réponse à la personne à qui elle répond et va jamais remettre exactement la même phrase comme nous, ça pourrait être le cas quand on veut gagner du temps et répondre à plein de fois à la même question. Et puis, dernière chose, l'intelligence artificielle peut aussi résumer des conversations et les synthétiser en un message plus court. Donc, par exemple, toi, t'es parti 4 jours en vacances, tu rentres, tu te connectes à un salon de discussion que t'aimes bien et là boum tu vois qu'en 4 jours il y a eu 600 messages j'ai dit putain je vais pas me taper 600 messages quand même et bah tu peux demander à l'intelligence artificielle de venir te résumer tout simplement les 600 messages et en peut-être une je sais pas trentaine de lignes j'en sais rien mais du coup ça te permet de rattraper le retard que t'as sans devoir te taper tous les messages donc voilà en tout cas je trouve que ces trois fonctionnalités qui sont assez intéressantes que c'est une belle manière d'amener de l'IA à l'intérieur de salons de discussion. Et du coup, à voir maintenant sur Discord. En tout cas, nous, c'est une piste, hein, je le dis là pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui aussi en podcast, c'est une piste de développer peut-être un salon de discussion Discord pour aller à côté de notre super chaîne Twitch.
Ouais, je trouve ça intéressant en tout cas. Les trucs qui sont proposés, c'est un peu innovant, je trouve, d'aller résumer du texte. Grave. C'est cool. Eh bien, écoute, moi, je vais te parler de Texas et Clover. Voilà. Ah, des noms de code.
Qu'est-ce que c'est?
On va parler de TikTok. Hein. Ah. Après les États-Unis et la Commission européenne, le Danemark lui aussi se met à bannir progressivement TikTok. Il y a 2 semaines, au même micro, au même endroit, je parlais de la Commission européenne qui interdisait ses membres d'utiliser TikTok.
Ouais.
Là où le gouvernement américain et 32 États ont déjà lancé des procédures d'interdiction, mm-hmm. plus des lycées, plus énormément d'entreprises. Eh bien, cette semaine, ce sont plusieurs institutions danoises qui ont appelé leurs employés à supprimer TikTok.
Eh ben écoute, c'était ma 3e news, c'est magnifique.
Magnifique. Eh ben tu pourras peut-être creuser là-dessus parce que j'ai voilà. D'abord le Parlement du Danemark, ensuite DR, l'entreprise publique de radio-télévision. J'imagine que c'est Radio Danemark DR.
Ouais.
Ça vient de popper dans mon cerveau. c'est en réponse à un examen de sécurité effectué par le Centre danois pour la cybersécurité que les institutions ont décidé d'appeler leurs employés à ne pas utiliser TikTok. Mais de son côté, TikTok ne faiblit pas et propose une solution pour essayer de rassurer tout le monde. Mercredi, le 8 mars, elle présentait son plan Clover pour garantir la protection des usagers européens. En ce sens, les informations personnelles seront stockées dès cette année dans des centres de données européens de TikTok. À Dublin et en Norvège, à Hamar, des hébergements locaux qui serviraient à stocker les données localement pour minimiser leur transfert en dehors de la région et donc réduire davantage leur accès aux employés chinois de TikTok. Voilà, plus ou moins rassurant. Et pour rappel, en 2020, TikTok mettait en place le plan Texas, un partenariat avec Oracle, la solution tu sais, informatique, qui était un partenariat technologique qui permettrait d'administrer aux États-Unis les données des utilisateurs. Visiblement, ça n'a pas freiné la guerre entre les deux.
Bah,
voilà.
Pour développer un petit peu ce que tu dis, alors il y a différentes choses, il y a différentes choses à prendre en compte aussi. Effectivement, avec les États-Unis, il y a aussi une guerre économique, tout simplement, hein, chino-américaine, qui fait que les États-Unis n'ont pas juste déjà pas envie de développer une grosse entreprise chinoise sur leur territoire. En plus de ça, ils n'ont pas forcément été rassurés complètement par le fait que les données personnelles seraient conservées qu'aux États-Unis, puisqu'il y a eu des fuites sur le fait que ces données étaient peut-être conservées aux États-Unis, mais elles étaient consultables depuis la Chine. Donc, du coup, ça posait quand
même
question.
Parce que depuis le plan Texas, il y a encore plus de galères en vrai. Hein.
Exactement. Ensuite, en Europe. Alors TikTok n'est pas le seul réseau social concerné puisque l'Europe demande aussi à Facebook, à Google, à Apple, à tous les géants américains de maintenant stocker les données personnelles en Europe et plus aux États-Unis. Donc c'est une question qui va en fait la question de la conservation des données personnelles de nos propres citoyens, ça va être une vraie question politique des prochaines années. Et t'as raison, le Danemark c'est quand même tout le Parlement maintenant qui est interdit d'avoir TikTok, le gouvernement. C'est des entreprises publiques radio-télévision, mais c'est aussi des entreprises privées qui se mettent à demander à leurs employés sur leur téléphone pro de ne pas avoir TikTok, voire même de ne pas avoir TikTok du tout, même sur le perso. Et ils créent même ils prêtent des téléphones. C'est-à-dire que par exemple dans certains métiers où il y a des recherches à faire par TikTok parce que ils ont besoin de TikTok pour s'enseigner pour quelque chose, ils vont prêter un téléphone TikTok qu'ils appellent où il y a que TikTok dessus qui ne sert à rien d'autre qu'aller sur TikTok et pour être sûr de pas se faire piquer de l'information, de la data d'autres applications ou d'autres ou d'ailleurs. Donc c'est vraiment, on est vraiment au cœur d'une, quand même, d'une guerre un peu économique
une
et politique,
guerre froide, numérique.
Voilà, autour de l'application TikTok. On va voir comment ça évolue, mais effectivement, l'Europe aujourd'hui est en train de prendre conscience, en tout cas, des dangers de donner autant de données personnelles de ses citoyens partout dans le monde. On rappelle par exemple que ça fait déjà plus de, je crois, deux ans et demi ou trois ans que les soldats américains ont l'interdiction complète d'avoir TikTok sur leur téléphone pour éviter que les Chinois puissent savoir où sont toutes les bases américaines et où sont les troupes américaines.
Si ça peut rassurer les Français, suite à l'annonce de la Commission européenne, Olivier Véran a précisé qu'aucun des ministres et membres de l'Assemblée n'avait TikTok sur son téléphone.
Ouais, donc normalement c'est aussi respecté en France. Merci en tout cas ce matin d'être venu nous écouter. Si vous avez d'autres news, si certaines vous font réagir, n'hésitez pas, vous avez deux solutions. Soit vous venez nous parler sur les réseaux sociaux @supernatif, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok, Pinterest,
partout.
On est partout. Ou alors, si vous ne voulez pas venir nous parler sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi venir nous suivre en live sur Twitch dès 9h
tous les matins,
et on parle dès qu'on a fini d'enregistrer l'épisode de ce qu'on vient de se raconter, on développe un petit peu avec vous en direct, on répond à vos questions, on vous en pose aussi même parfois. Et puis si vous nous écoutez donc sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas, partagez-nous à un pote, un petit commentaire, une petite note, ça nous fait plaisir.
Voilà, d'ici là, on vous embrasse bien fort et on vous dit à demain.
Allez, ciao.
Salut à tous.